Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Il faut une dynamique de création des emplois correctement rémunérés et décents. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a demandé sa mise en place. Il a dit vendredi à Kinshasa au cours du Conseil des ministres présidé par visioconférence. Interdiction aux militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés dans Beni d'autoriser l'accès des civils à leur position. Mesure prise par le commandement des opérations conjointes FARDC-UPDF. C'est après le décès d'une femme dans une position FARDC à Rwenzori lors d'une attaque ennemie. Et puis, l'invité de ce midi, Marie-Pascale Malanda, coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable ACTED. Elle nous explique la transition énergétique et le positionnement de la RDC sur le changement climatique. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a demandé la mise en place d'une dynamique de création des emplois correctement rémunérés et décents. Il a aussi prôné l'intégration des opportunités des marchés du travail dans le cadre macroéconomique en vue d'améliorer la cohésion sociale au pays et de créer les conditions favorisant le développement. Il a donné ses orientations vendredi à Kinshasa au cours du Conseil des ministres présidé par visioconférence. Noëlla Louzitou nous en parle.
Le compte-rendu de ce Conseil des ministres, lu par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, précise que la cohésion sociale et la prospérité partagée, qui reposent impérativement sur une exploitation optimale de la diversité des ressources naturelles de notre pays, doivent se concrétiser par une dynamique de création des emplois correctement rémunérés et décents. Et la création même d'emplois, principalement dans le secteur privé, devrait demeurer une préoccupation majeure du gouvernement pour absorber le nombre des jeunes tant diplômés que non qualifiés, qui arrivent chaque année et qui se déversent sur le marché du travail. Le chef de l'État a instruit de ces faits le ministre d'État, ministre du Plan, la ministre du Travail et Prévoyance sociale, sous la direction du Premier ministre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour intégrer les indicateurs du marché du travail dans le cadre macroéconomique à partir de l'année prochaine, indiquant le nombre d'emplois nets et le taux de chômage. Le ministre d'État, ministre du Plan, devra présenter d'ici à la fin du mois d'octobre une feuille de route irrelative, a conclu Patrick Muyaya.
Pendant ce temps, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale recommande à l'État congolais de repenser son système scolaire général dans la perspective de privilégier l'enseignement technique, artisanal et des métiers. Cette déclaration de Vital Baniwe-Sizé a été faite samedi à Kinshasa à l'occasion de la cérémonie de la certification de la première promotion du Centre d'orientation professionnelle et d'apprentissage des métiers, COPAM, pour l'inspecteur provincial principal, IPP Kinshasa, de l'enseignement professionnel. Ce projet de la troisième communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBCA, permettra à la jeunesse de Kinshasa de se prendre en charge en évitant l'oisiveté et en luttant contre le chômage et le banditisme. Plus de détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Sur un total de plus de 400 inscrits, 108 ont été lancés sur le marché d'emploi.
Moi, c'est Madame Bora Kinyoma. J'ai appris comment manier l'ordinateur, comment utiliser les applications, les logiciels.
Moi, c'est Justin Ticolia. J'ai fait la coupe et couture. J'ai un plus, vraiment, maintenant. Je peux faire quelque chose vraiment de bon.
C'est effectivement la motivation du député national Vital Mouini Bagnosizé, initiateur du COPAM.
Certaines de nos écoles sont comparées à des usines qui fabriquent des chômeurs. Donc, il y a une adéquation entre la formation et le monde du travail, où l'enseignement général est développé en lieu et place de l'enseignement technique. Nous devons changer ce système et initier des écoles qui se fondent sur les réels besoins en biens et en services.
L'inspecteur provincial principal de la formation professionnelle, IPP Kinshasa, demande à la jeunesse congolaise d'en profiter pour se prendre en charge. Pacifique Touoni.
La jeunesse doit se prendre en charge et il faut faire la formation professionnelle. C'est ça la clé même du développement.
Cependant, ce centre éprouve des difficultés et tend la main au gouvernement. David Kakoulé, directeur du COPAM.
S'il faut demander quelque chose à l'État, c'est tout d'abord l'accompagnement. À terme clair, nous avons besoin d'abord de l'espace. À deuxième lieu, nous avons besoin de matériel qu'on doit justement exploiter.
Le centre CAPA de Bukavu est la structure porteuse du COPAM.
Assainir l'économie du marché du cobalt artisanal pour en faire une véritable richesse pour la RDC, tel est l'objectif assigné à l'entreprise générale du cobalt EGC par le gouvernement. Cette entreprise est un service public créé par un décret du gouvernement en 2019. Son rôle principal est d'exercer le monopole que s'est octroyé l'État à l'échelle nationale sur l'approvisionnement du cobalt issu de l'exploitation artisanale et garantir la conformité de cette exploitation aux normes et standards les plus élevés en matière de responsabilité sociale et environnementale ainsi que des traçabilités. L'objectif, selon lui, est d'améliorer les conditions de vie des creuseurs artisanaux et de lutter contre la fraude. Jean-Dominique Takis, directeur général de l'entreprise générale de cobalt, l'a dit vendredi à Kinshasa au cours d'un atelier de présentation de cette entreprise qui marque le lancement des activités. Jean-Dominique Takis est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Il est important que nous puissions continuer à partager notre engagement à conduire notre mission. Le mandat qui est le nôtre de régler toute une série de problèmes auxquels la RDC fait face. Ce sont les conditions des creuseurs, bien entendu les enfants, les femmes enceintes qui doivent absolument être sorties des sites miniers. Mais pour cela, il faut aussi pouvoir payer correctement ces creuseurs. N'est-ce pas, de façon à ce qu'ils puissent aussi gérer leur famille. Il y a tout, derrière un creuseur, il y a une famille, n'est-ce pas, qui dépend de ce creuseur. De l'autre côté, il faudrait mettre fin à la fraude dont l'État est la victime première. Parce que ce cobalt qui est fraudé, l'État ne reçoit pas la contrepartie au niveau des taxes et redevances diverses. Il faut mettre un terme à cela. C'est pour ça que nous avions parmi nous aussi les membres du Parlement, sénateurs et députés nationaux.
Grève dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le député national Toupa Tiabola Bintou demande au bureau de l'Assemblée nationale d'inviter le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire afin qu'il éclaire les élus nationaux sur des questions liées aux revendications des professeurs et autres corps scientifiques. Pour l'élu de Katanda, qui a adressé une question orale avec débat au ministre Muindo Nzangi, il est important que celui-ci donne des explications sur certaines décisions prises dans ce secteur, notamment la nomination des membres des comité de gestion des instituts supérieurs et universitaires. On écoute le député national Bentumba Tiabola Bintou au micro de Pierrot Elamenji.
Depuis la rentrée parlementaire, c'est jeudi 15 septembre 2022, nous avions adressé une question orale avec débat au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en rapport avec la grève dans son secteur. En effet, c'est depuis plus de 2 mois que les professeurs, les chefs de travaux, les assistants, les corps académiques administratifs des institutions supérieures et universitaires sont en grève. Voilà pourquoi nous demandons à notre bureau d'inviter les ministres de l'ESU à venir éclairer la représentation national, ce qui est à la base de ces mouvements de grève. Comment il entend rencontrer les revendications des grévistes? Sur base de quels critériums avait-il procédé aux différentes nominations des comités de gestion au sein des établissements supérieurs et universitaires? Enfin, qu'il éclaire la représentation nationale si la perception dans des institutions supérieures et universités privées d'une somme de $65 comme frais de confirmation pour passer d'une promotion à une autre dans un même établissement.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, le commandement des opérations conjointes FARDC-UPDF interdit aux militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés dans la région de Beni toute autorisation d'accès des civils à leur position. Cette mesure a été prise après avoir enregistré un cas de décès d'une femme dans une position militaire des FARDC dans le secteur de Rwenzori lors d'une attaque ennemie. La décision intervient à la suite de la rencontre jeudi dernier entre les généraux-majors Camille Bombélé et Kayanja Mwanga, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint des opérations Tchouja. Le lieutenant-colonel Mac Azoukai, porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, explique le bien fondé de cette mesure. Il est au micro d'André Kitenge.
Cette mesure est motivée par le fait que tout le monde a été surpris de compter parmi les victimes de l'attaque de la banlieue de Boulongo, une dame civile à 6h du matin. C'est ce qui a poussé les autorités militaires, à savoir le cordon des opérations conjointes et le commandant secteur, évidemment avec le général Kahanza, qui est le commandant du contingent UPDF, de prendre la mesure d'interdire l'accès aux civils des camps militaires. Vous savez, les positions militaires sont des lieux stratégiques. Ce sont des tranchées et des trous de fusiliers. Il n'est pas normal qu'on amène des civils, des enfants surtout, dans des positions comme celle-là. Voilà pourquoi cette mesure a été prise pour que nos militaires, surtout les FARDC qui combattent avec leurs homologues de l'UPDF, ne puissent pas occasionner encore de pareils incidents. On ne peut pas empêcher quelqu'un de recevoir la visite de ses proches, mais ça doit se faire la journée et en dehors des positions militaires.
Province de Kwilu, l'ONG Association des jeunes responsables a organisé hier une séance d'échange avec plus de 1500 élèves du collège Kivuvu, situé dans la commune de Mayoyo, à Bandunduville. Il était question de les sensibiliser contre la haine tribale qui, selon le coordonnateur de la dite structure, a gangréné l'espace Grand Bandundu, occasionnant ainsi plusieurs morts d'hommes, occasion pour maître Prosper Gatamatambu d'appeler ses jeunes élèves à accepter tous les compatriotes. Il est au micro d'Irène Mboma.
Il était question de nous échanger avec les élèves du collège Kivuvu sur la haine tribale. Aujourd'hui, la haine tribale a gangréné notre société, la haine tribale a causé tant de morts. Aujourd'hui, nous vivons les atrocités qui règnent entre les peuples Teke et Yaka. Alors, nous avions voulu sensibiliser en amont les jeunes pour qu'ils comprennent que la Constitution protège les Congolais dans les articles 30 et 66. Tout Congolais est libre d'habiter sur n'importe quel sol Congolais. Tout Congolais a le devoir de respecter ses concitoyens, de les traiter avec humanisme et sans discrimination aucune. Cependant, sur terrain, nous vivons des comportements anticonstitutionnels. C'est pourquoi nous avons voulu demander à nos élèves de savoir qu'ils sont à venir de demain. Ils doivent se conformer au regard de la loi. Nous leur avions rappelé que les jeunes ne peuvent pas faire l'objet de manipulation de certaines autorités, de certains politiciens qui utilisent la jeunesse en mal, à leur profit. Ils n'ont pas droit de se jeter dans les associations de malfaiteurs.
Parlant des violences dans les Grands Bandundu, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, appelle à la prise des mesures urgentes pour enrayer l'escalade de la violence et apporter une réponse humanitaire d'urgence dans les provinces de Maindombe et du Kwilu. Selon les autorités provinciales, plus de 35 000 personnes se sont déplacées depuis les provinces citées vers plusieurs localités des mêmes provinces, ainsi que vers le Kwango et Kinshasa. Plus de 1400 personnes ont également traversé le fleuve Congo pour trouver refuge en République du Congo. Ces violences ont causé plusieurs dizaines de morts et des centaines de maisons incendiées. J'appelle à la mobilisation des autorités et des acteurs humanitaires, de paix et de développement afin de prendre des mesures qui permettent d'apaiser les tensions et de soulager les souffrances des personnes affectées par les violences, a dit Bruno Lemarquis. Notez qu'à ce jour, la RDC compte près de 5,53 millions de personnes déplacées. Direction l'Ituri, 5 creuseurs artisanaux d'or sont morts et 2 autres blessés lors d'un éboulement de terre survenu hier dans le site minier de Gangala au quartier DC6, commune rurale de Mongwalou, dans le territoire de Djougou. Selon des sources sur place, les victimes sont des jeunes qui se sont introduits clandestinement dans ce site pour y extraire des minerais. Ils ont été surpris par une motte de terre qui les a ensevelis pendant que s'effectuait l'opération de bouchage de certains puits d'or par les autorités locales. Le récit de Ezekiel Mousalia.
Ce drame a eu lieu en début d'après-midi d'hier au cours de l'opération de remblayage des trous dans des sites miniers au quartier de ces sites dans la commune rurale de Mongwalou dans le territoire de Djougou. Cette décision avait été prise la semaine dernière par le conseil local de sécurité dans le but de lutter contre l'exploitation illicite des minerais dans plusieurs gisements qui présentent un danger pour la population, explique le bourgmestre de cette commune. Cette personne qui s'est trouvée clandestinement au site de Gangala, dont l'accès avait pourtant été interdit au mois de mars, ont été surprise par une monte de terre qui les a toutes ensevelies, ajoute la même source. 5 corps sans vie, tous des jeunes, ont été extraits grâce au concours de la population. Les blessés, eux, ont été acheminés à l'hôpital de Mongwalou pour des soins. Des sources concordantes dans la région indiquent que c'est au regard de la situation sécuritaire précaire aux alentours de Mongwalou que de nombreux jeunes se livrent des activités d'orpaillage au péril de leur vie. Cependant, la société civile locale déplore la complicité de certains agents de l'ordre ainsi que des services étatiques qui facilitent l'entrée des jeunes dans ces sites miniers. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Province de la Tchopo, 24 heures après l'ouverture de la session parlementaire de septembre, une session essentiellement budgétaire, les personnes vivant avec handicap font entendre leur voix. Elles souhaitent que le budget de l'exercice 2023 soit social et réaliste, tenant compte de l'intérêt de toutes les catégories sociales. Par ailleurs, Jacques Yaitema, président des associations des personnes vivant avec handicap, aimerait aussi, dit-il, que cette catégorie de personnes soit représentée dans le prochain gouvernement provincial. Il a dit au micro de Jacques Moukokole.
Nous voulons que le budget provincial de la Tchopo de l'année 2023 qui puisse être sur le plan protection et promotion des droits des personnes avec handicap, c'est-à-dire appuyer les actions, appuyer les œuvres, appuyer le travail que font les personnes à situation d'handicap. Et nous pouvons dire qu'il y a des centres pour handicapés, il y a des associations, il y a des ateliers et que le budget peut être réaliste. Comme le chef de l'État a dit que c'est l'année du social et qu'il faut aussi le budget au niveau des provinces soit aussi un social, c'est-à-dire adapté aux besoins de la population vulnérable.
Qu'attendez-vous du gouverneur de province par rapport au gouvernement qui sera bientôt formé?
En tant qu'une nouvelle autorité, nous souhaiterions qu'il puisse aussi mettre les personnes handicapées. La loi est claire et que les personnes handicapées doivent être représentées dans toutes les instances. Alors, nous osons croire que Madame la gouverneure va aussi nommer une personne vivant avec handicap, soit ministre, soit conseil spécial, soit commissaire provincial. Nous pensons qu'avoir une personne en situation d'handicap au sein du gouvernement, ça va aussi attirer les partenaires pour aider les rubriques sociales au sein du gouvernement, pour aider cette catégorie de personnes.
Actualité internationale.
La tension est montée d'un cran hier au Burkina Faso après la déclaration de l'armée réfutant la prise du pouvoir par les hommes du capitaine Ibrahim Traoré. Des manifestants ont notamment pris pour cible des bâtiments français en soutien aux putschistes. La France ayant été accusée de collusion avec le président de la transition déchu, un incendie attribué à la population en colère s'est déclaré devant l'ambassade de France à Ouagadougou et un autre devant l'Institut français à Bobo-Dioulasso à l'ouest du pays.
L'invité.
Ce midi, nous recevons Madame Marie-Pascale Malanda, coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et de développement durable, ACTED en sigle. Elle nous parle de la transition énergétique et le positionnement de la RDC sur le changement climatique. Elle s'entretient avec Richard Junior Kamunga.
Madame Marie-Pascale Malanda, bonjour.
Bonjour.
Concrètement, quelle est la politique que l'ACTED utilisera pour en finir avec les déchets plastiques qui inondent nos rivières?
J'ai eu à parler brièvement, je pense, de la question d'économie circulaire, par exemple. En fait, c'est un mécanisme qui permet de faire des déchets des ressources et c'est un des axes, je crois que vous avez vu le spot d'ACTED qui dit qu'il encourage l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est une économie où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se recycle, un peu comme dans la nature. Donc, on a des déchets. On en a beaucoup parlé des déchets plastiques. Il va falloir penser à organiser une filière de collecte des déchets, trier les déchets organiques pour en faire du compost, éventuellement produire de l'énergie. Mais les déchets plastiques peuvent se recycler dans le circuit industriel. C'est ce qui se fait dans beaucoup de pays. Donc la problématique, elle est partout. Le plastique, il est utilisé partout. Mais c'est simplement que nous avons un problème dans l'organisation de la filière de traitement et d'évacuation et d'élimination ou de recyclage des déchets.
La RDC, pays solution ou champion en énergie carbonique, qu'allez-vous faire pour empêcher la coupe de bois dans nos forêts?
Je vous ai donné des chiffres. On ne peut pas empêcher quand on n'a pas d'alternative. Je vous ai dit que dans les estimations actuelles, d'ici 2050, dans un schéma business as usual, donc si on ne fait rien, d'ici 2050, on pourrait avoir perdu 15% de notre couvert forestier avec l'utilisation du bois énergie. Le bois énergie, il y a un panneau qui le dit ici, représente plus de 95% de la consommation énergétique. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc plus de 85% de notre consommation énergétique, c'est le bois. Alors, si nous restons tributaires pour les besoins aussi élémentaires comme la cuisson du bois, l'écosystème forestier est menacé. Nous devons développer l'accès à l'énergie en grand réseau, je veux bien, mais développer tout ce qui est mini-grid, off-grid, dont l'électrification est capitale. Donc voilà une des réponses. Vous ne pouvez jamais dissocier la forêt ou la lutte contre la déforestation de l'énergie. Ça, c'est faire, c'est prendre une trajectoire qui n'est pas cohérente.
Les gaz méthane dans les lacs Kivu, c'est une menace permanente pour la population de l'Est. Vous croyez que la CTED pourra quand même accompagner la RDC pour l'exploitation de ces gaz?
Dans le lac Kivu, effectivement, il y a cette présence de gaz méthane dissous dans les eaux du lac. Et ça fait, je l'ai dit dans la salle, c'est un projet qui date depuis à l'époque où j'étais au ministère de l'Environnement. On avait invité le professeur Albrecht pour la question à la fois du dégazage du golfe de Kabuno. Là-bas, c'était dégazer et extraire le dioxyde de carbone. Et puis la question de l'exploitation du gaz méthane, qui est un gaz qu'on peut valoriser, donc qu'on peut utiliser dans des centrales thermiques pour produire de l'électricité, comme le fait le Rwanda. Donc c'est plus une question de volonté politique. Et on a le ministère des hydrocarbures qui a déjà annoncé qu'un projet va se développer avec des partenaires privés pour installer une station d'extraction de ce gaz et le valoriser et produire de l'électricité, parce que ça répond aussi à un besoin important. Il y a un déficit énergétique à la fois dans les Kivu, mais un peu partout dans notre pays. Ce gaz est une menace sécuritaire. C'est qu'à tout moment, il peut avoir une intrusion magmatique qui peut déclencher une réaction en chaîne qui pourrait conduire à une explosion gazeuse. Donc ce gaz se libère et vous imaginez les conséquences comme il y a eu à l'époque au Cameroun avec l'explosion gazeuse dans le lac Nyos. Donc il y a deux aspects très importants. Et actuellement, le Rwanda, qui l'exploite déjà, il a déjà augmenté sa capacité. Il avait commencé avec 5 mégawatts. Aujourd'hui, il a une centrale qui doit passer à 25, peut-être 100 mégawatts. Et je n'accuse pas, la partie la plus profonde du gaz, où il y a le plus de gaz, elle est du côté RDC. Donc pendant que nous, on n'exploite pas, celui qui exploite de l'autre côté, le gaz n'a pas de frontières. Donc il peut terminer un jour tout le gaz et nous, on ne l'a pas exploité.
Madame Marie-Pascal Malanda, Radio Okapi vous dit merci.
Merci, monsieur.
La coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et des développements durables, ACTED, répondait aux questions de Richard Junior Kamunga. C'est la fin de ce journal coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi et Piero Elamenji. La mise en onde, Jean-Claude Nsiala et Belinda Boussouma vous l'a présenté. Merci de votre attention.